C'est drôle, hein, quand même. Il y a une association qu'on entend beaucoup qui s'appelle Reporters sans frontières. Or, actuellement, il y a un endroit où il n'y a pas de reporters parce qu'il y a vraiment une frontière. C'est Gaza, et j'entends absolument pas M. Robert Ménard et ses comparses se plaindre de l'absence de reporters de ce côté-ci de la frontière, enfin de ce côté-là plutôt. C'est drôle, c'est bizarre, je comprends pas. Salut, c'était Anne du Morbihan.
Bonne année à tous, continuez de nous étonner sans ménagement. Aux Nantais et Réséens, nous, Repères de Nantes et Cinéma Bonne Garde, sommes tout en joie de vous annoncer la projection du film Chomsky et compagnie au Cinéma Bonne Garde ce mercredi 7 janvier à 20h30, suivi d'un débat sur la liberté d'expression. Nous vous y attendons, alerte.
Bonjour et bonne année des AMG de Haute-Savoie. Le repère de Annecy reprend le 7 janvier à 19h au Dersim de Mettay. Patrick nous livrera son analyse sur la situation en Palestine, puis nous débattrons autour de la phrase suivante. En travaillant le dimanche jusqu'à 70 ans, comment allons-nous faire pour visiter nos arrière-petits-enfants en prison? Voilà, c'est le mercredi 7 janvier à 19h au Dersim. Qu'on se le dise et répète. Salut Mermet.
Ah, joli hommage, ami averti. Merci pour ces messages, chers auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales. Aujourd'hui, peu de répondeurs. Pourquoi? Parce qu'on a reçu beaucoup de messages entre hier et aujourd'hui, mais beaucoup sont excessifs, délirants et certains même insultants, puisqu'on a évidemment évoqué hier la... ce qui est en train de se passer à Gaza. C'est un sujet particulièrement sensible, mais c'est pas pour ça qu'on va pas l'aborder aujourd'hui avec toute une succession de témoignages que nous avons eu par téléphone à Gaza, provenant de Gaza ou bien de d'ailleurs, ou bien d'ailleurs de d'Israël ou même de France. Pourquoi? Pour essayer de comprendre, pour essayer de comprendre autrement et d'éclairer autrement ce qui se passe dans cette partie du monde que nous connaissons un peu. On a fait souvent des reportages là-bas, notamment à Gaza, et c'est évidemment un endroit où on a des amis. On en entendra un qui vit maintenant à Paris, qui s'appelle Anis, qui nous a aidé à préparer cette émission et à traduire certaines parties, et parce qu'évidemment, il y a là quelque chose qui ne peut pas ne pas nous préoccuper, puisqu'on voit que il peut y avoir effectivement des conséquences ici dans notre hexagone et dans certains quartiers de notre hexagone. C'est notre sujet du jour. On y va tout de suite. C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil, Antoine Chao et toute l'équipe. Gaza, Bloody New Year.
Flight number 2, arriving from New York.
Mirvat, vous vivez où exactement, vous?
Moi, je vis à côté, enfin, côté ouest de Gaza.
Mm-hmm.
Le quartier, il s'appelle le palais du gouverneur, qui a été détruit, de toute façon.
Comment vous vivez?
Ben, comme tout le monde, hein. C'est très difficile de vivre, hein. Que ça soit au niveau de l'électricité, il n'y a plus d'électricité. J'ai un générateur, mais j'ai plus d'essence. Je le fais marcher tous les deux ou trois jours. Vous voyez? L'eau potable, j'ai des réserves d'eau, mais ça va se terminer quand? Au niveau de l'alimentation, ça aussi, on se partage les repas. On a peur, on a froid. Pourquoi on a froid? Parce qu'on ouvre les fenêtres. Quand il y a des raids, il faut prévenir et ouvrir les fenêtres. Pour que ça se casse pas, il y aura pas trop de casse. Et on dort avec ces conditions-là. Mon fils a peur. Il ne peut pas dormir dans son propre lit. Il dort entre moi et mon mari. Ça fait 11 jours qu'il dort entre nous. Il a 11 ans. Il tremble. Dès qu'il a des rêves, il me dit, maman, moi aussi je tremble, plus que lui, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Je peux pas vous dire, hein. Il y a des blessés partout. Il y a des cadavres. Pas de fuel, pas de combustible, rien. Et même les portables, ça ne marche plus. Ça, c'est terminé, les portables.
Alors, comment vous êtes informé?
Il y a des gens, enfin, il y a des gens qui vous disent, voilà, il y a ceci, il y a cela, hein, les voisins. C'est de bouche à oreille, finalement. La radio, ça marche, j'ai des piles, voyez. Et à chaque fois, je dis à mon mari, n'utilise pas trop ta radio, parce que finalement, on n'en aura plus rien du tout. Vous imaginez une vie comme ça?
Vous pouvez sortir et vous déplacer dans la ville? Vous êtes tout dans Gazaville, vous?
Oui. Les trois premiers jours, oui. Et après, nos proches nous ont dit, non, c'est pas possible. Hein. Il n'y a pas un quartier où il y a la sécurité. Pas du tout.
Et vous voyez, les F-16 passent au-dessus de vous, les drones passent au-dessus de vous?
Voilà. Hier soir, je n'en pouvais plus, j'ai craqué. Et c'était pas possible devant mon fils, alors j'ai fermé sur ma chambre et puis j'ai craqué. Franchement, il y avait des raids. On dirait que la maison est en carton. Ça tremble. C'est un cataclysme. À Gaza, c'est le cataclysme. On vise tout. Les écoles, les bâtiments, les gens, les civils, les mosquées. Les gens qui prient dans les mosquées, ils sont visés. Les universités, tout, les hôpitaux. Enfin, on dit hôpitaux, mais il n'y a plus d'hôpitaux maintenant. C'est du rien du tout. Un hôpital, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens meurent dans les couloirs. Il n'y a plus de gaz pour les opérations. Il n'y a rien. Il n'y a plus de médicaments. C'est le blocus total. Hein. Les Israéliens, ils disent qu'on a ouvert les frontières durant les 6 mois de trêve. Mais ça s'ouvrait pour nous faire passer l'alimentation et la marchandise goutte par goutte. C'est-à-dire ne pas vous faire mourir de faim, un point, c'est tout. Ils se moquent du monde. Ils se moquent du monde.
Mais vous avez pensé à partir?
Non, je partirai jamais. C'est mon pays. Ça, c'est mon pays. Je suis palestinienne et je ne partirai pas. Oui, c'est mon pays. On est enraciné ici.
C'est ça. C'est-à-dire que vous préférez mourir à Gaza plutôt que de partir?
Oui. J'ai pas d'autre pays. وقفت وسط الغرفة أفتش عن جعبي أتفقد المنفضة اللمبة الخسارة الربح الباب التصاوير فصغرت في نظري حتى صبرت طويلا أمام المرآة لأرى وجهي فتصفحت الهواء العابق بالدخان والسعال وكدت أمجه وأنساه وضأمت حتى صبرت كثيرا أمام الباب لأدخل ثم لأخرج ثم لأتمدد بلا صوت على السرير المفتوح الأعزل الأخرس وتذكرت يوم قتلت واغتصبت وقطعت إربا ليمونة سيجارة وسحلت وبكيت للمرة الأولى على موتي وعلى الطبيعة.
Une opération préparée de longue date, idéologiquement préparée de longue date, médiatiquement préparée de longue date, et aujourd'hui, les journalistes, les médias ne sont pas autorisés à rentrer dans la bande de Gaza. C'est-à-dire, tout se passe sans témoin. Il y a quand même, à l'intérieur, on vient d'entendre cette femme, Mirvat Al-Rayes, qui est professeure de français à Gaza, et c'est des témoignages de ce genre-là qu'on peut encore obtenir, pour les téléphones qui marchent encore. Et il y a, vous le savez, quelques journalistes palestiniens, gazaouis, correspondants de chaînes internationales qui donnent quelques informations, mais ça va évidemment en se réduisant. Donc on est en train d'assassiner sans témoignage, sans témoin, ou avec des témoignages extrêmement réduits. Alors on a essayé de savoir un peu, d'avoir des analyses et d'autres regards sur ce qui se passe. Voilà le témoignage de Richard Falk, comme on voudra, qui est envoyé américain des Nations Unies et qui est un témoin privilégié de ce qui se passe là. et qu'on a pu joindre par téléphone. La communication n'est pas très bonne, il était au Brésil. Écoutez son témoignage. Richard Folk, bonjour.
Yes. Bonjour.
Richard Folk, ce qui nous intéresse, c'est évidemment que vous nous parliez de la situation dans les territoires palestiniens, et notamment à Gaza. Comment vous appréciez, comment vous qualifiez la situation actuelle ?
It is a human disaster of monumental scale.
C'est un désastre d'échelle monumentale.
Je rappelle que vous êtes rapporteur spécial des Nations Unies et vous avez dit qu'il s'agissait d'un crime de guerre. Est-ce que vous pouvez, c'est une condamnation évidemment grave, est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus ?
Yes, it is a crime against humanity.
Oui, c'est même un crime contre l'humanité.
Based on the continued use of modern weaponry against an essentially defenseless society.
Oui, c'est vraiment l'utilisation de forces armées de dernier cri contre une population désarmée.
A people that had already suffered greatly from a blockade that lasted 18 months.
Déjà une population qui avait déjà subi un embargo depuis plus de 18 mois.
The denial of food, medicine and fuel had brought Palestinian people living in Gaza to the edge of survival.
Et vraiment le manque de médicaments, de nourriture mais aussi d'essence avait poussé vraiment la population civile de Gaza à la limite vraiment de la survie.
And then to attack that society in this brutal way has to be viewed as a massacre, not as a war.
Et d'attaquer cette population d'une manière aussi brutale, ça doit être qualifié de massacre, pas de guerre.
Alors ça, c'est votre appréciation à vous. Vous avez dit qu'Israël a ignoré délibérément les initiatives diplomatiques du Hamas pour rétablir le cessez-le-feu qui expirait le 26 décembre. Est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu plus précisément là-dessus ?
I think the evidence is overwhelming that Israel avoided a diplomatic resolution of the difficulties.
Oui, je crois qu'il y a des preuves même établies de ce qu'Israël a délibérément rendu impossible une résolution diplomatique de cette situation, de cette crise.
There had been a ceasefire that was established in June of 2007.
Il y avait un cessez-le-feu qui avait été établi en juin 2007.
Israel has primary responsibility for breaking that truce by using force against Hamas leaders and killing Palestinians inside Gaza starting on November 4th.
Et c'est le 4 novembre qu'Israël a eu la première responsabilité d'avoir brisé ce cessez-le-feu par des attaques contre des dirigeants Hamas et des activistes à l'intérieur de Gaza.
On many levels, beginning with the refusal to continue economic assistance to Gaza as a punishment to the people because they elected Hamas back in January of 2006.
Ça commence déjà avec la punition collective contre la population gazaoui qui avait élu le Hamas et qui avait marqué la fin de toute assistance entre les deux pays.
Essentially, the blockade that was established after that was a collective punishment directed at the entire Gazan population and signaling them that if they were to support Hamas, they must suffer the consequences.
Il y avait vraiment quelque chose d'une punition collective contre l'ensemble de la population après cette élection du Hamas, comme pour marquer bien que si vous avez élu le Hamas, alors vous devez en payer le prix, vous.
Robert Falk, une dernière question. Quelle peut être, selon vous, l'issue de la situation actuelle à Gaza ?
That is a hard question.
C'est une question difficile, oui.
Of course, the international community has a huge responsibility at this moment to exert all possible pressure to bring the Israeli offensive and aggression to an immediate end.
Bien sûr, déjà, il y a une responsabilité énorme de la communauté internationale pour faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu immédiat de cette offensive et de ces opérations.
And it shows the weakness of the United Nations that it has been unable to make clear signals that it demands that this Israeli aggression be stopped.
Et ça montre aussi la faiblesse des Nations Unies qui n'ont pas réussi à envoyer un signal clair pour qu'Israël cesse ce qui est en cours.
Only world public opinion has been clear in its moral and legal condemnation.
Les seuls qui étaient clairs dans leur condamnation morale de la politique israélienne, c'est l'opinion publique internationale.
Vous voulez rajouter quelque chose encore, Bert Falk?
What I really wanted to express was the terrible circumstances that face the people of Gaza.
Moi, je veux insister vraiment sur la situation terrible à laquelle sont confrontées les populations de Gaza.
The criminality of Israel's approach and the existence of peaceful alternatives that would eventually bring security to both the Palestinians and to the Israelis.
La différence qu'il y a aussi entre l'attitude criminelle d'Israël en ce moment et le déni qui est fait de toutes les alternatives possibles pour sortir cette région de ce conflit.
Laila yoret liat, veruah shoshanosh ba. Hava el hashlav shir balat, zemer shel ahava. Laila yoret liat, veruah shoshanosh ba. Hava el hashlav shir balat.
Allô?
Rami, on vous appelle un peu pour voir comment vous vivez à Gaza actuellement.
En fait, la situation est catastrophique. Bon, je vais peut-être pas employer ce mot parce que bon, il veut plus rien dire parce que la situation est tellement pire que ce qu'on a connu avant les dernières attaques parce qu'on était déjà sous embargo, on était déjà encerclés, enfermés. J'ai vraiment pas beaucoup de mots pour décrire un peu la situation. Voilà, là, ce que je peux vous décrire, enfin, nous sommes dans le noir le plus total. Donc nous entendons comme ça toutes les minutes, toutes les secondes parfois, des tirs, des avions qui lancent des missiles, etc. Donc la situation est très apocalyptique.
Et vous pouvez actuellement, à ces jours-ci, vous pouvez vous déplacer
c'est trop risqué pour les déplacements, parce que maintenant les drones, les avions sans pilote israéliens sillonnent enfin, le ciel de Gaza, de toute la bande de Gaza, et ne réfléchissent pas à deux fois avant de lancer des missiles, hein, ça je peux vous le garantir. C'est devenu, il y a tellement d'anecdotes de gens qui ont trouvé la mort parce que, bon, ils étaient au mauvais endroit, parce que hier, avant-hier par exemple, dans le village voisin, là, donc à un ou deux kilomètres de mon village, deux enfants, enfin, qui ont été déchiquetés par les éclats d'une bombe lancée par un drone. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était courir dans le champ voisin, enfin, qui se trouvait à côté de chez eux. Et c'est vraiment une anecdote parmi des milliers d'autres, quoi. Enfin, des gens comme ça qui meurent bêtement. Ça peut donner un peu une idée un peu des risques en ce qu'on court les gens qui tentent de sortir ou qui tentent de faire des déplacements, etc.
À quand remonte la dernière fois où vous êtes sorti de Gaza?
En fait, je suis sorti la dernière fois. En fait, ça remonte au mois de septembre 2006. C'était quelques jours après la fin de la deuxième guerre du Liban que je suis parti en France pour faire des études de master. Et là, en fait, pour rentrer chez moi à Gaza, parce que j'ai ma famille, mes enfants, ma femme, mes enfants étaient restés à Gaza. Donc j'étais tout seul en France. Et à trois reprises, j'ai essayé de rentrer à Gaza pour pouvoir revoir ma famille. Et j'étais à chaque fois refoulé. La première fois remonte à fin 2007. Donc je suis rentré il y a à peine 5 mois, là ça fait 5 mois que je suis rentré à Gaza, et heureusement que je me retrouve actuellement à Gaza, parce que j'aurais jamais pu surmonter le choc, enfin d'assister à la télévision à ce qui se passe à Gaza, alors que éloigné, enfin loin de mes enfants et de ma femme, quoi.
Ouais. Mais de quoi vous rêvez maintenant? Vous rêvez de partir de Gaza quand même, avec votre famille.
Oui, ça je vous le cache pas. Enfin, je rêve de partir.
Bah oui,
le problème, c'est que c'est une. Enfin, je ne peux pas, disons, vivre, être moi-même et puis être bien dans ma peau ailleurs que dans mon pays, quoi.
Ah, c'est ça. Vous restez par attachement, par conviction.
Voilà, c'est ça. Par conviction, si possible. Je pourrais mieux donner, je pourrais mieux servir les autres en étant dans mon pays qu'en étant ailleurs. Enfin, je serais toujours étranger, un étranger. C'est vrai que quand je suis rentré, tous ceux qui sont venus me voir, ils m'ont traité, même au téléphone avant de rentrer à Gaza, et tout le monde me disait, surtout ne rentre pas, la situation est vraiment désastreuse, tu vas vraiment pleurer de sang, tellement tu regretteras d'être rentré. C'est vrai que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment, même mes parents, parce que mes parents, ils ont assisté à la guerre de 67, la guerre de 6 jours, ils me disent qu'ils ont les atrocités, les massacres ont été commis, le nombre de morts. C'est vrai que cette situation, on l'a jamais vécue. Je ne sais pas si, je suis sûr que demain sera pire. Hein. Les menaces israéliennes se font de plus en plus pressantes. Là, par exemple, ce matin, on a entendu des. Moi, j'habite dans un village un peu qui se trouve à côté de Ran Yunis. Les premiers jours des attaques, on était un peu en quelque sorte entre guillemets à l'abri, parce que en fait, le gros des attaques et des missiles se lançaient sur les villes. Là, en fait, on commence à entendre à proximité de mon village, en fait, des mouvements de chars, des tirs, etc. Et là, en fait, on sent que cette nuit, l'invasion, ce sera notre tour, quoi. Cette nuit-là. Donc là, je me suis préparé dès ce matin. J'ai mis mes diplômes, mes attestations de professionnels, etc. De côté, mon ordinateur portable, j'ai tout mis en ordre, enfin pour que, bon, au cas où, voilà, on soit prêt à partir, quoi. Et donc on s'attend au pire là ce soir. Il y a les vols des drones, des avions maintenant se font. Enfin, vraiment le ciel est très 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 chargé. Hein. Bon, voilà, c'est un petit aperçu de. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon, j'essaie aussi d'enchaîner avec ce que je vis actuellement, quoi.
Comment ça va finir tout ça? Vous n'avez aucune idée. Personne n'a aucune idée.
Moi, je pense que les Israéliens, ils vont pas très loin dans leur offensive. Ils savent pertinemment que le Hamas est bien préparé. Les Israéliens sont pas prêts à des pertes considérables au rang de leur armée. Donc je pense que tout ce qu'ils attendent, c'est une initiative en fait qui leur garantisse une sortie, à la fois une sortie de crise et en même temps d'imposer leurs propres conditions sur la partie adverse en fait pour pouvoir disons sortir la tête haute un peu en quelque sorte, hein, et de pas être contraint de se retirer comme ça a été le cas au Liban. Donc peut-être faire plus de morts. Mais les objectifs qui étaient fixés au départ, ils sont sûrs de pas pouvoir les atteindre. Ils vont prendre quelques jours un peu, peut-être donner un peu carte blanche à leur force spéciale de chercher un peu, de traquer les grandes têtes un peu du Hamas, mais pas plus que ça. Je pense
Rami,
que ça pourrait se compliquer. Oui, allez-y.
Qu'est-ce qu'on entend derrière vous?
Là, les avions, là, enfin, qui sont, il y a un avion là de très 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 proche de là où je suis, voilà. Mais bon, c'est la routine, quoi. Bon, en fait, les tirs maintenant se sont un peu calmés, mais bon, par contre, les mouvements d'avions sont de plus en plus intenses, quoi.
Ok, Rami, on vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez vous en sortir. On vous souhaite du courage.
Merci.
Ok, Rami, bonne chance. Salut. Au revoir.
Bonne chance. Merci. Au revoir.
Ya ba 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 bam 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 ya ba 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 bam 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 ya ba 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 bam 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 ya ba 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 bam 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 yam ba ba bam ba ba bam 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 yam ba ba bam ba ba bam 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 yam ba ba bam ba ba bam bam ya ba 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 bam 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 yam ba ba bam ba ba bam 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 yam ba ba bam ba ba bam 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 yam ba ba bam ba ba bam bam ya ba ba Ya ba 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 bam bam bam, ya ba 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 ba, ya ba 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 ba, ya ba 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 ba, ha 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 ha, yam bam ba 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 bam. Une autre manière de voir le ce qui se passe actuellement à Gaza avec Michel Warshavsky. Michel Warshavsky est israélien, il vit à Jérusalem, il est le porte-parole du Centre d'information alternative. Il écrit beaucoup en ce moment, il est un observateur avisé du conflit du Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien. Et voilà ce qu'il nous a dit il y a 2 heures. Michel Warshavsky, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je rappelle que vous êtes porte-parole du Centre d'information alternative, que vous êtes à Jérusalem. En ce moment, évidemment, vous écrivez beaucoup. Je voudrais savoir un petit peu quel est votre point de vue sur la situation.
Je crois que nous sommes à un moment charnière. Jusqu'à hier, l'armée israélienne, par l'aviation d'abord, les bombardements indiscriminés, mais au début de l'offensive terrestre, s'en est sorti sans dégâts. Nous apprenons aujourd'hui qu'il y a déjà eu 5 morts du côté israélien, et là, les choses vont changer. L'opinion publique israélienne, qui a été très favorable à l'intervention militaire à Gaza, qui soutient dans sa grande majorité le gouvernement, va tourner, parce que dès lors que le prix à payer pour cette offensive, pour cette agression, est là devant nous, sous la forme de 5 soldats morts et de plusieurs dizaines de blessés, d'après les derniers rapports, les gens se demanderont à quoi se faire.
Vous écrivez, ce n'est pas une guerre qui se déroule dans la bande de Gaza, mais un carnage réalisé par la 3e force aérienne du monde contre une population civile sans défense.
Effectivement, bombarder le centre-ville de Gaza, qui est une ville avec une des densités de population les plus grandes du monde, cela veut dire cibler des civils. Il est impossible de bombarder le centre-ville de Gaza. Il est impossible de faire une incursion terrestre dans des zones extrêmement peuplées sans savoir à l'avance que les civils vont en payer le prix. En ce sens-là, ce ne sont pas des victimes collatérales, ce sont des objectifs choisis par le gouvernement et l'état-major israélien.
Et si on vous lit, pour vous, cette offensive était préparée de longue date. Vous rappelez ce qu'a dit Ehud Barak en parlant d'une entité terroriste, pour parler de Gaza. Ça veut dire qu'il faisait de Gaza des 1 500 000 habitants de Gaza, autant de terroristes.
Effectivement, Gaza, en tant que tel, en tant que territoire, mais en tant que population, est ciblé, et ce de longue date, par Ehud Barak, comme une entité terroriste, comme une entité donc qui est éradicable.
Mais on nous dit partout qu'il était tout à fait légitime, il est normal, il est légitime qu'Israël se défende contre les tirs de roquettes venant de Gaza, venant du territoire.
Alors, il y a 2 choses à dire face à cet argument. Le premier, c'est que, quelles que soient les raisons, il n'est jamais légitime, et le droit international le dit et le redit, il n'est jamais légitime de cibler des populations civiles et de mener des offensives militaires dont les victimes civiles sont disproportionnées, comme dit le droit international, par rapport à l'objectif recherché. La deuxième chose, et elle est encore plus importante, c'est que tout ne commence pas avec les roquettes. Il y a une question de chronologie ici qu'il faut dire et répéter. D'abord, Gaza est sous occupation depuis 42 ans. Une occupation qui, parfois, a été relativement calme, mais souvent a été d'une immense brutalité, avec un nombre impressionnant de martyrs, de victimes, du côté palestinien. Deuxièmement, c'est que depuis un an et demi, plus d'un an et demi maintenant, la bande de Gaza se trouve en état de siège, un siège mené par Israël, soutenu par les États-Unis d'Amérique et par l'Europe, qui, sans l'aide humanitaire internationale, mènerait une population d'1,5 million de personnes à une situation de véritable famine. Donc, le siège de Gaza est le cadre dans lequel les roquettes riposent d'une façon assez dérisoire. D'ailleurs, elles ont fait, heureusement, très peu de victimes du côté israélien en cours des deux dernières années, très peu de victimes, mais elles sont un acte réactif face à une réalité qui est celle d'une population d'un million et demi assiégée et coupée du monde, coupée du reste de l'espace palestinien et coupée des ressources vitales.
Une dernière question, Michel Barchavski. Vous êtes israélien, vous vivez à Jérusalem, mais vous êtes souvent en France, vous connaissez bien la société française. Est-ce que vous pensez qu'on peut craindre une importation du conflit, une répercussion du conflit sur la société française?
Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a pas de glissement automatique des réalités moyen-orientales sur les populations européennes et les communautés, entre guillemets, qui les composent. Elles sont en général le résultat d'une volonté politique de dirigeants communautaires qui, pour des raisons ou d'autres, ont intérêt à utiliser le conflit israélo-arabe pour communautariser et ont intérêt à communautariser pour mettre en avant leur position sur le conflit israélo-arabe. Ceci dit, il ne fait pas de doute que la majorité des Français et des Européens d'origine arabe ou d'origine musulmane ont le cœur qui bat avec les Palestiniens de Gaza, et une majorité des communautés juives en Europe se sent solidaire d'Israël. En ce sens-là, il y a des réflexes communautaires réels, mais je ne crois pas que s'il n'y a pas de manipulation politique de la part des dirigeants respectifs de ces communautés, que le conflit du Proche-Orient va déborder en Europe.
Voilà, témoignage venu d'Israël, venu de Gaza. Des informations, vous en avez beaucoup sur Internet, mais il faut faire très attention à bien sourcer, à bien recouper, à bien faire attention à ce qu'on vous raconte sur Internet. Évidemment, la première victime de la guerre, souvenez-vous, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et il y a un enjeu de propagande très très important, évidemment, sur ce conflit. Mais il y a quand même des informations qui ne trompent pas si elles sont faites de façon correcte. Par exemple, ce témoignage qu'on peut trouver de deux chirurgiens norvégiens à Gaza avec des photos. Et ces deux chirurgiens disent « nous pataugeons dans la mort, le sang et les amputations » et qui évoquent une attaque par exemple contre un marché de légumes, 80 blessés, 20 morts sur le champ, là évidemment dans un marché. C'est les civils qui sont visés. Puis aujourd'hui, dans le quotidien Le Monde, il y a une évocation des combats dans la ville de Gaza, tandis que l'étau israélien se resserre dans le nord de la bande de Gaza, avec des descriptions de meurtres, on peut dire, de civils, d'enfants, de femmes enceintes, etc. On va justement joindre un médecin à Gaza qui s'appelle Yasser El-Kel dit et que nous avons pu joindre avec notre ami Anis qui lui vit à Gaza, mais enfin qui a longtemps vécu à Gaza et qui depuis quelques temps en France. Yasser El-Khaldi. Yasser El-Khaldi, vous êtes anesthésiste?
Oui, je suis anesthésiste. Je travaille à l'hôpital européen à Gaza, au sud de Bandou Gaza.
Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous travaillez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Nous vivons dans des situations très difficiles depuis quelques mois. Il y avait le blocage autour de Gaza, économique et financier. Il n'y a pas de beaucoup de moyens, de médicaments aux hôpitaux.
Qui sont les gens que vous avez à soigner? Dans quel état ils arrivent?
Les premières attaques, tous les blessés et les morts étaient militaires. Maintenant, tous les blessés et les morts sont des gens civils.
Sont des civils?
Voilà. 30% de morts sont des enfants et des femmes.
Selon vous, 30% des victimes, des morts, sont des femmes et des enfants?
Exactement.
Comment vous pouvez établir ce pourcentage?
Nous établissons des listes au nom des personnes qui sont mortes et au nom des personnes blessées. On les classe selon leur âge ou selon leur sexe aussi.
Ces morts et ces blessures sont provoquées par quoi?
La plupart
par les bombardements par avion ou par les missiles tirés par les avions.
Voilà, exactement.
Actuellement, qu'est-ce qui vous manque le plus dans cet hôpital?
يمكن يعني احنا الوضع الطبيعي اللي في غزة اللي عندنا نقص دائما وابدا في يعني في الخدمة الطبية الاساسية يعني كيف يعني في
الوضع qui manque c'est les cadres, c'est les personnes qualifiées, formées qui peuvent intervenir et apporter leurs soins, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers, capables de gérer des situations d'urgence voilà. comme ça.
وبعدين طبعا بالإضافة لهيك اللي هي الحاجات اللي هي الأدوات الأجهزة في العنايات والغرف العمليات لدرجة إنه أحيانا ما كناش نلاقي خطان عشان الجروح.
Les équipements nécessaires, les médicaments, pour même pour non pour fermer les blessures, on n'avait pas des fils pour intervenir de façon efficace.
Mais pour l'instant, précisément, qu'est-ce qui vous manque ?
أول حاجة بنقصنا دائما وأبدا هو الأمن والأمان إنه أشعر إني أنا مأمن في بيتي وفي أنا إلي على في المستشفى ثلاث أيام مش قادر أروح على غزة.
Moi je vais d'abord parler en tant qu'être humain. Moi j'ai c'est un climat de sécurité que nous manque. Moi en tant qu'être humain, ça fait trois jours je peux pas aller chez moi. Je peux pas parler avec les miens. Je peux pas être sûr qu'ils sont en bonne situation et en sécurité dans ma maison. Donc il nous manque ce climat général de sécurité dans un premier temps.
غير هيك طبعا الأشياء الثانية اللي بتنقصنا الأدوية والأجهزة والمعدات.
Deuxième besoin c'est l'intervention efficace pour les gens qui sont amputés. Qui nécessite une intervention chirurgicale très avancée ou un suivi très avancé. C'est pour cela que nous n'avons pas les moyens, nous, de le garder à l'hôpital, ni de les soigner. C'est pour ça que nous voulons qu'il y ait des moyens pour transporter ces blessés vers l'extérieur et prendre soin d'eux.
Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez évacuer les blessés hors du territoire de Gaza vers, vers Israël?
Par Israël, non. Maintenant, non. Par Israël. Par l'Égypte, oui.
Vous pouvez les évacuer par l'Égypte.
Par l'Égypte, oui.
Entre 60 et 80 blessés sont déjà partis vers l'Égypte.
Et là, ce que vous nous dites, c'est que ça fait trois jours que vous n'êtes pas rentré chez vous.
Je ne peux pas rentrer chez moi.
Pourquoi ?
Parce que les routes sont coupées et parce qu'ils visent aussi les ambulances et les véhicules médicaux qui circulent sur les routes. Jusqu'à maintenant, 13 ambulances ont été visées par les bombardements.
Voilà, exactement. 13.
13 ambulances ont été détruites.
Oui, tout à fait. هاي أصعب وضع تعرضنا له تقريبا في 30 سنة اللي
فاتت. C'est la situation la plus difficile que j'ai vue depuis une trentaine d'années.
Pourquoi êtes-vous resté à Gaza?
Moi?
Oui, pourquoi vous restez là?
أنا اللي قعدت في غزة أنا عملت دراستي لمستي في فرنسا وعندي ابن مع الجنسية الفرنسية. حبيت أخدم بلدي وأجي يعني أكون هنا في البلد أعلم و
J'aime mon pays, moi j'ai fait mes études à l'étranger, j'ai même aussi fait mes études supérieures en France pour apprendre la nécessité. J'ai mon fils qui est né en France, mais on a choisi de rester ici parce que j'ai quelque chose à contribuer ici. J'aime mon peuple, j'aime mon pays, je voudrais contribuer.
C'est une façon de militer pour vous d'être à Gaza.
Je ne voudrais pas parler de militantisme, mais moi j'aime mon pays et je voudrais servir mon pays. مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي مين إرهابي أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت إجدادي أجل القانون عن صادي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك نقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أخطرية ديمقراطية والله لكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلك ولدك ولا اسمه عملية انفجارية وهنا ديت ارهابية يعني ضربتني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نصيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار المحجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنه نسيت انه استحق ضب الاهل تحت العشار وعلى لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ما كلني وانا عايش ببلادي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي On passe en Israël, on passe à Tel Aviv et on rejoint Shlomo Sand. Shlomo Sand, historien israélien réputé, et vous vous souvenez d'un entretien qu'on a fait avec lui pour la passion qui suit à l'occasion de la sortie de son livre « Comment le peuple juif fut inventé ». On a rediffusé, nous, on vous a présenté une nouvelle diffusion de cet entretien il y a quelques jours. On l'a joint donc à Tel Aviv.
Allô, bonsoir.
Shlomo Sand, bonjour. On s'est vu récemment dans la Bas, si j'y suis, pour la présentation de votre livre. Là, on vous appelle pour la... Vous êtes à Tel Aviv, c'est ça?
Oui.
Oui. On vous appelle pour avoir un peu votre sentiment et quel regard vous portez sur ce qui se passe actuellement à Gaza.
Bon, je ne sais pas si je peux résumer mes sentiments dans une phrase, mais je suis très, très dégoûté, déprimé, parce que je crois qu'Israël, pour une fois en plus, fait une guerre bête qui n'avance pas pour commencer à créer un certain compromis entre nous et les Palestiniens. Mmh. Et donc, le bombardement de Gaza et maintenant l'invasion, la réinvasion de Gaza, je ne crois pas que c'est progresse une solution entre nous et les Palestiniens. Je parle comme Israélien qui habite à Tel Aviv, qui n'est pas bombardé, et qui sait une chose très importante. Les Palestiniens peuvent faire des bêtises, évidemment. Mais une chose importante pour moi, ceux qui sont bombardés maintenant à Gaza, une grande partie d'eux vient d'ici, de Jaffa, de Tel Aviv. Ça veut dire que j'appartiens à un peuple qui bombarde les enfants des réfugiés de Jaffa, qui j'habite. Et je me sens très, très mal. C'est-à-dire que je ne peux pas oublier le fait qu'ils sont des réfugiés, qu'ils ont habité autrefois, justement, sur la terre que j'habite maintenant. Donc, dans l'analyse politique, je n'oublie pas cette facteur historique. C'est-à-dire, il y a 62 ans qu'ils ont été ici. Maintenant, ils sont ramassés, tabassés, là-bas, à Gaza. Mm-hmm. Deuxième chose, vous savez que l'argument très populaire de le gouvernement israélien dit que chaque État a un droit de se défendre. Et voilà, le Hamas a envoyé des raquettes de Qassam vers des villes israéliennes. Oui, chaque État a le droit de se défendre. Mais il y a très peu d'États qui ne savent pas fixer leurs frontières. Bientôt 42 ans, qu'Israël ne propose pas des frontières. Elle ne sait pas choisir des frontières. Donc, si chaque État a le droit de se défendre, chaque État a le devoir de décider quelles sont leurs frontières. Maintenant, ça fait 42 ans que nous dominons un autre peuple sans aucune perspective. Voilà, c'est mes sentiments. Sentiment profond, qui, je sais qu'il y a des gens qui meurent là-bas avec des masses, c'est-à-dire plus de 500 déjà, des victimes de la part des Palestiniens. C'est insupportable. C'est-à-dire, oui, Israël a le droit de se défendre, mais Israël n'est pas menacé. Et ces pauvres gens qui habitent à Sderot, vous savez, Sderot, c'est la ville du sud des pays, ils payent les prix de les colons, c'est-à-dire qui habitent dans la Cisjordanie. C'est eux qui payent les prix de le fait qu'Israël ne veut pas retirer les colons de la Cisjordanie. C'est très très simple.
Shlomo, comment vous expliquez quand même que les enquêtes d'opinion montrent qu'une, pas une totalité, mais presque d'Israéliens sont favorables aux opérations?
Vous savez, un début de chaque guerre, pas seulement chez les Israéliens, dans l'époque moderne, il y a un soutien presque absolu de la population à cette guerre. Et il y a toutes les guerres, presque. En début, les processus, les masses soutiennent la guerre. Ça doit prendre le temps. Et d'ailleurs, beaucoup de gens peuvent commencer une guerre, peu de gens savent comment terminer une guerre. Maintenant, je crois que cette guerre, surtout, c'est une guerre qui la raison profonde de cette guerre, raison politicienne, de certaines gens dans le gouvernement, et surtout, je parle sur les hautes baraques. Je crois que cette guerre peut être appelée la guerre des baraques. Vous savez qu'est-ce que c'est baraque en hébreu?
Non.
C'est blitz, blitz.
Ah, comme blitzkrieg. Oui, il y a aussi évidemment quelque chose qui est dû aux élections que vous allez avoir le 10 février. Il y a tout un enjeu électoral.
Je dis que c'est la raison profonde de cette guerre.
C'est ça.
C'est un jeu électoral parce que Barack a perdu plus en plus de pouvoir, plus en plus de soutien. Et voilà, cette guerre, le chiffre montre, lui a aidé beaucoup. Parce que, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette guerre? Comment on peut terminer cette guerre? En quoi cette guerre? Pourquoi Israël refuse d'accepter une sorte de compromis, pas seulement sur Gaza, mais aussi sur la Cisjordanie? Bon, j'aurais espéré qu'il y aura un autre mouvement qui représente le peuple palestinien, mais le fait est que Hamas est le représentant.
Élu, en plus. Démocratiquement élu. Oui.
Tout à fait. Et comme je suis démocrate, je dois reconnaître cet pouvoir. Mais je suis isolé, je ne veux pas cacher le fait que j'appartiens à une petite minorité. Mais vous savez que cette minorité, toujours à la, vers la fin de la guerre, s'élargit beaucoup. Sauf c'est dommage qu'ils aient tellement, avec tellement de victimes. Donc je crois que dans quelques jours, je serai une minorité un peu plus grande, ok?
Merci,
Je suis très pessimiste, Daniel, mais je ne suis pas fataliste, hein. Voilà.
Shlomo, voilà. À très bientôt, merci d'avoir participé.
Merci à vous. Au revoir.
Toujours en Israël, cette fois en Jérusalem, avec Gideon Lévy. Gideon Lévy est un célèbre journaliste du journal du quotidien Haaretz. Gideon Lévy, bonjour. Vous êtes journaliste et reporter pour le Haaretz. Vous êtes même membre de la direction du Haaretz. Vous étiez autrefois conseiller de Shimon Peres. Et je voudrais avoir votre point de vue sur la situation à Gaza.
I think what Israel is doing now is almost a crime of war.
Je crois que ce que fait Israël maintenant est presque un crime de guerre.
I see the pictures coming from Gaza and I'm really ashamed to be an Israeli right now.
Je vois toutes les images qui arrivent de Gaza et j'ai honte d'être un Israélien aujourd'hui.
Israel had the right to react on the rockets.
Israël avait le droit de réagir face aux attaques de roquettes.
But not to overreact. And what we are doing now is overreaction, using violence and force without any limits, killing women and children by tens and tens.
Et là, on en fait trop. C'est une réaction démesurée en tuant des civils, des femmes et des enfants par dizaines.
All together, only to get to the same point that we could have gotten before we went to this operation.
Tout ça pour en arriver au point où on aurait pu arriver avant même cette opération militaire.
Namely, a fair truce agreement, a fair ceasefire agreement, which will include and must include lifting the siege over Gaza.
Et c'était clairement faire un vrai cessez-le-feu qui lève l'embargo sur Gaza.
And the bloodshed goes on. By the time we are talking now, in the Shifa hospital in Gaza, people are dying on the floor without any medication.
Et aujourd'hui, alors même qu'on est en train de parler, les gens sont en train de mourir dans l'hôpital de Gaza de Shifa. Les gens sont en train de mourir dans les couloirs sans avoir de soins.
And the world doesn't pay any attention. The world is silent and indifferent.
Et le monde ne fait pas attention. Le monde reste silencieux et indifférent.
And I think Israel succeeded to mislead the world and to think that Hamas is synonym to Hezbollah and both are synonym to Al-Qaeda.
Et je crois que l'Israël a réussi à tromper une partie de l'opinion mondiale en faisant croire que le Hezbollah c'était la même chose que le Hamas, qui était la même chose qu'Al-Qaeda.
Est-ce qu'il faut parler avec le Hamas?
People should talk with Hamas. That's the only way to get to any kind of solution.
Bien sûr qu'on devrait parler avec le Hamas, c'est le seul moyen d'arriver à une quelconque forme de solution.
Now we are wasting so much blood of so many young people, really, really for nothing.
Et là, on est en train de faire couler tellement de sang inutilement de tellement de jeunes pour rien.
La presse internationale n'est pas acceptée, ne peut pas rentrer à Gaza, ni d'ailleurs la presse israélienne. C'est uniquement quelques journalistes palestiniens, en tous les cas des journalistes qui étaient à l'intérieur de Gaza, qui peuvent envoyer quelques informations, alors que, en principe, effectivement, Israël a une bonne réputation quant à la liberté de la presse.
First of all, I must remind you and your listeners that Israeli journalists are not allowed by Israel to enter Gaza for 2.5 years.
Déjà, je dois vous rappeler à vous et à vos auditeurs que les journalistes israéliens n'ont pas le droit d'entrer dans Gaza depuis plus de 2 ans et demi.
And now the entire media is not allowed.
Et maintenant, c'est tous les journalistes qui n'ont pas le droit d'y rentrer.
And I think that Israel would like the world to see only Sderot and not Gaza.
Oui, et je pense que Israël a envie que les gens voient seulement les roquettes qui tombent sur Israël et pas ce qui se passe à Gaza.
Don't forget that the media is playing a very negative role in brainwashing the people here.
Faut pas perdre de vue aussi que les médias jouent un rôle très négatif dans un véritable lavage de cerveau des gens ici.
And in hiding the atrocities that we are doing in Gaza.
Et surtout en cachant les atrocités qu'on est en train de commettre à Gaza.
Quelle est l'issue possible de cette situation selon vous?
The only possible solution, unfortunately, will be international pressure.
Ce sera uniquement avec la pression internationale, de la communauté internationale.
But I don't see it happening. I saw right now your president in a press conference in Damascus
Et je ne le vois pas venir. Là, je vois une conférence de presse de votre président Sarkozy à Damas. Et je ne le vois pas appuyer là où il faut, mettre la pression nécessaire pour cesser le feu.
Et qu'est-ce que vous espérez du nouveau président des États-Unis qui va être intronisé dans quelques jours?
Jusqu'à maintenant, il n'a pas dit un mot, et ça en soi, c'est déjà inquiétant. Parce que quand une telle catastrophe a lieu, il devait s'élever et prendre parole.
Guy Dorlévy, une dernière question. Quel va être le sujet de votre prochain papier?
I think I will write about the criminal responsibility of Livni, Barak and Olmert. They will have to pay for this operation one day.
Je pense que je vais écrire sur la responsabilité criminelle de Tzipi Livni, Ehud Olmert et Ehud Barak, parce que je pense qu'un jour ils devront rendre justice de ce qu'ils ont fait aujourd'hui.
C'est une façon de vous faire des amis en Israël?
Not much will be left after this.
J'en ai déjà pas beaucoup, il en restera plus beaucoup après cet article.
Ok, merci beaucoup Gideon.
Били в куранты, родина нас провожала в эмигранты. Самолеты, поезда, машины, автобусы разбросали нас в разных точках глобуса. Раз, два, три, четыре, пять, не ходите нас искать, мы далеко. Нас уже, пожалуй, не догнать, мы там, где себя не могли представить ранее. Америка, Израиль и Германия. Уезжали, улетали в дальние дали. Переживали, как все будет в начале. Очень осторожно, обойдя таможню в пункте назначения, багаж свой выгружали. Новые места, чужие города, Хайбэй, Бродвей и остальная красота. Пестрая экзотика для нашего глаза рвала крышу сразу.
Comment vous expliquez la situation? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on est arrivé là, selon vous?
C'est l'occupation. C'est la communauté internationale qui laisse faire Israël. C'est un État qui est au-dessus de la loi. Voilà, c'est ça. S'il y avait une démocratie juste, franche, s'il y avait une liberté qui est une vraie liberté, la communauté internationale n'aurait pas admis qu'il y ait une occupation jusqu'au 21e siècle. Ça fait plus de 60 ans qu'on est en train de se battre pour rien du tout. Finalement, retirez-vous de nos territoires et voilà, point, c'est tout. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés de la bande de Gaza il y a en 2005. Ils ont imaginé une salle où vous enfermez les gens, vous les enfermez à clé et vous jetez la clé à la mer. Quand vous bouclez tout Gaza, comment vous voulez que les gens vivent? La bande de Gaza est une bande pauvre. Elle peut pas vivre toute seule. Franchement, c'est ça. C'est la prison à ciel ouvert. C'est pas la faute à qui que ce soit. C'est le Hamas et on est là avec Hamas. Ce sont les Israéliens, la communauté internationale qui n'a pas trouvé de solution, qui a amené les gens à devenir intégristes. Et vous croyez que les gens vont désavouer Hamas après? Moi, j'ai bien peur que non. J'ai bien peur que les gens deviennent de plus en plus intégristes. On a peur, franchement, on a peur.
Vous faites confiance au Hamas pour ce qui vous concerne?
Non. Je ne fais confiance à personne. Ni à Hamas, ni aux autres. Il ne faut pas qu'il y ait des factions. Il faut qu'il y ait des gens qui veulent la liberté de ce peuple. On punit le peuple. Voilà. On fait la guerre au peuple. Ce n'est pas à X ou à Y. Finalement, X ou Y vont s'en sortir quand même. C'est nous qui payons tout. On a tout cassé, on a tout perdu. Je travaille même à l'école américaine. Elle est détruite. Elle est complètement détruite par trois raids F-16. Donc, il n'y a plus de travail. Qui a été puni? C'est le peuple. C'est pas nous qui avons lancé les missiles. Et c'est nous qui payons. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien du tout. Moi, ça fait 5 ans que j'ai pas vu mes parents. Ils vivent au Maroc. Ça fait 3 ans que j'essaye de quitter Rafah. Et je n'arrive pas. C'est l'occupation.
Vous avez cru à certains moments qu'on allait vers vraiment la création d'un État au moment d'Oslo et tout ça, vous y avez cru?
Oui, au début, oui. On était très optimistes et finalement, maintenant, personne. personne n'y croit. Franchement, personne. Personne. Parce qu'ils ont perdu la crédibilité. Ça fait plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond. On avait plus au début d'Oslo. Plus que ça. On vivait dans un niveau plus élevé que maintenant. On avait plus de liberté. On sortait, on revenait. Et maintenant, on est bouclé. Je vous le dis, c'est une prison à ciel ouvert. Et encore la prison, on s'occupe de vous. Vous vous occupez de vous-même, hein. Il n'y a pas d'avenir.
Merci, merci Mirvat El-Rayes, merci Yasser El-Kadi, Michel Barchavski, Richard Foll, Gideon Lévy, Shlomo Sand, Rami Al-Fayad, Yasser El-Kadi. Traduction Anis Gandhi et Guy Vanctil, montage Antoine Chao, Agnès Lebot et Guy Vanctil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez écouter cette émission, vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org. Sur ces deux sites, vous pouvez faire les commentaires que vous souhaitez. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Patrick Henry, Koy Nguyen et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, et le répondeur, où Agnès Lebot vous attend, a pour numéro le 01 56 40 37 37, et puis ceci, important à vous dire quand même, le jeudi 8 janvier au théâtre de l'Union à Limoges sera projeté Chomsky et compagnie, et je mènerai le débat après le film. Réclame.